Mes très chers amis, pourquoi parler aujourd'hui de Gethsémani, ici et pendant la période des vacances? Peut-être parce que les chrétiens fidèles, qui vivent aujourd'hui dans une société devenue aveugle et athée, se trouvent affrontés à des souffrances indicibles, proches des peurs et des angoisses de Jésus à Gethsémani lors de son agonie. Gethsémani, c'est la première étape de la passion de Jésus. Quelques instants auparavant, dans la salle du Cénacle, Jésus avait institué l'Eucharistie après s'être offert au Père. Dans son cœur, sa passion qui allait commencer était en réalité déjà accomplie, puisqu'il avait dit, en rompant le pain, c'est-à-dire en donnant sa chair, « Prenez et mangez-en tous, ceci est ma chair livrée pour vous. » Et il dira, immédiatement après, présentant le calice de son sang, « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous. » Incontestablement, dans l'esprit et le cœur de Jésus, Dieu et homme, son sacrifice et donc notre rédemption sont accomplis. De plus, sa passion est déjà réalisée, puisque sa chair est déjà livrée et son sang est déjà versé. Jésus, Dieu et homme à la fois, a déjà accompli son sacrifice. Mais il doit maintenant montrer à tous les hommes ce que lui a coûté dans la totalité de son être le salut de toute l'humanité. Alors, à Gethsémani, Jésus va vivre ou revivre, pour notre information, toutes les souffrances morales et psychologiques que les hommes peuvent supporter. À Gethsémani, Jésus nous montre l'immensité de la réalité de ses souffrances en contemplant non seulement tout ce qui va lui advenir dans son humanité, mais surtout tout ce que les hommes lui infligeront en refusant de se convertir, donc de revenir à Dieu. Nous savons que Jésus, Dieu et homme, en instituant l'Eucharistie, a déjà souffert dans sa divinité et que le sacrifice de Jésus, Dieu, est déjà accompli. Mais maintenant, à Gethsémani, où son humanité est allée librement, il se prépare à souffrir sa passion humaine. Comme Satan ne peut rien contre Dieu, il va s'acharner contre l'humanité de Jésus, car l'humanité de Jésus peut encore refuser l'intégralité de la passion. Oui, Satan va s'acharner sur l'humanité de Jésus, et à Gethsémani, il va lui présenter non seulement les phases atroces de la passion de sa chair humaine, son chemin de croix et son crucifixion, mais aussi les phases de sa passion psychologique, la fuite de ses apôtres, le reniement de Pierre et l'abandon du Père. Et le cœur humain de Jésus frémit. Mais il frémit seulement, car Jésus a tout accepté des mains du Père pour le salut de tous les hommes. Il sait qu'il va souffrir beaucoup. Mais Verbe de Dieu, la décision du Père, donc la décision de Dieu Trinité, était aussi la sienne. Alors, pourquoi une telle crainte? Jésus, nous vous contemplons, et nous, hommes du XXIe siècle, nous pleurons avec vous. Et nous, qui sommes encore chrétiens, nous imaginons qu'à Gethsémani, une toute petite fleur pousse à vos pieds. Nous imaginons une petite fleur minuscule qui, vous voyant pleurer, essaie de rejoindre votre cœur pour vous consoler, au moins un peu. Elle est bien petite, cette petite fleur. Mais elle n'est pas seule. Des milliers d'autres sont aussi près de Jésus, formant comme un tapis sur lequel repose la tunique de Jésus. Comme nous, elles pleurent toutes ces petites fleurs, essayant toutes de consoler Jésus. Mais que se passe-t-il donc vraiment à Gethsémani? L'humanité de Jésus pleure à Gethsémani. Pourtant, au Cénacle, Jésus avait dit « oui » au Père. Il était parti, après l'institution de l'Eucharistie, jusqu'au jardin des Oliviers pour y attendre Judas qui allait le livrer. Pourquoi donc Jésus, qui était totalement offert au Père et qui ne désirait qu'accomplir la volonté du Père, pourquoi soudain Jésus, couvert d'une sueur sanglante, crie-t-il vers le Père « Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi ?» Jésus sait parfaitement que ce n'est pas possible et qu'il a choisi d'accomplir la volonté du Père. Alors encore une fois, nous nous demandons que se passe-t-il dans le cœur de Jésus. Lorsque nous pensons à Gethsémani, nous ne devons jamais oublier la présence de Satan, qui s'acharnait sur Jésus afin de lui faire abandonner sa mission. Si Jésus se sauvait, et il pouvait le faire facilement, Judas et les chefs des prêtres ne pouvaient plus l'arrêter, le monde ne serait donc plus sauvé, et Satan serait bien content. Aussi, Satan, à Gethsémani, multiplia-t-il les tentations, évidemment à l'insu des apôtres qui dormaient. Et parmi toutes les tentations que Satan présentait à Jésus, il y avait toute l'histoire de l'humanité après sa mort sur la croix, et tous les péchés du monde, et tous ces hommes qui continueraient à refuser Dieu, et toutes ces guerres, toutes ces persécutions contre les chrétiens, toutes ces trahisons et tous ces reniements. À quoi bon tant souffrir, puisque de toute façon, les hommes continueraient à pécher et à se perdre. Satan multiplia dans l'esprit de Jésus les scènes de l'histoire des hommes. Tant de peuples refuseraient son évangile. Satan montrait aussi à Jésus l'indifférence de tous les peuples asiatiques qui mettraient à mort les missionnaires venus à eux. Seules quelques personnes se convertiraient, mais elles aussi seraient tuées. Alors à quoi bon la croix ? Au Moyen-Orient, oui, il y aurait quelques pays chrétiens, mais bientôt, par étapes, eux aussi seraient martyrisés et leur population tuée par millions. Et cela durerait au moins jusqu'au XXIe siècle. Alors à quoi bon la croix ? Les peuples africains, oui, quelques-uns, mais très rares, accepteraient l'enseignement de Jésus. Mais bientôt la multiplication des mensonges de Satan conduirait les pauvres peuples africains à chasser et même à tuer ceux qui leur apporteraient les bienfaits de Dieu trois fois saint. Il restait l'Europe. Après l'édit de Milan de l'empereur Constantin, les chrétiens furent moins persécutés et l'évangile se propagea malgré les guerres continuelles, presque toujours féodales, qui ravageaient les populations. Puis vint le Moyen-Âge. Et grâce aux moines, l'Europe devint chrétienne, ce qui n'empêcha pas, hélas, les rivalités féodales, donc les guerres, de continuer. Malgré les hérésies innombrables qui frappaient l'Église, malgré tous les péchés commis par les hommes, et surtout à cause des divisions et des schismes qui s'installèrent et brisèrent l'unité de l'Église, l'Europe restait chrétienne. Globalement, l'Europe resta chrétienne jusqu'à ce que viennent, au XVIIe siècle, les Lumières. Lumière très ténébreuse, dont le seul but était la destruction de l'Église catholique. Et ce fut la Révolution française, et toutes les autres révolutions, puis des guerres effroyables, et les persécutions contre les chrétiens reprirent dans les pays communistes ou nazis, et maintenant musulmans. Aujourd'hui, l'athéisme règne en Europe, et particulièrement en France. Les persécutions sont devenues très sourdes, et pour l'instant, elles ne brisent que les cœurs. Les sectes, venues presque toutes d'Europe, se multiplient aussi en Amérique, y compris en Amérique latine. Le monde semble vouloir se couvrir de plus en plus de ténèbres sataniques. Et à Gethsémani, Jésus voit toutes ces images que le démon moqueur lui présente sans aucune pitié. La souffrance de Jésus est infinie, car si son humanité est finie, sa divinité est infinie. La souffrance de Jésus est donc aussi grande que toutes les souffrances humaines mises bout à bout. Nous, pauvres hommes, nous avons du mal à exprimer ces vérités. La souffrance que Jésus a prise sur lui à Gethsémani est la somme de toutes les souffrances des hommes de tous les siècles, puisqu'il a pris sur lui toutes nos souffrances. Contemplons Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Contemplons-le et adorons-le. Soudain, sa souffrance, toutes ses souffrances dues à tous les péchés des hommes, y compris des hommes du XXIe siècle et des siècles qui viendront, nous épouvantent et nous avons peur. Car le péché des hommes du XXIe siècle, ce sont aussi les nôtres. Seigneur, ayez pitié de nous.